Bonjour. Alors, tout couronner ou tout foutre en l'air, hein. Ça dépendra de si c'est bien ou pas. En tout cas, c'est un vrai plaisir que d'être là et d'avoir voilà, un peu l'honneur de venir vous parler. Puis aussi un peu de pression, hein, faut bien l'avouer. Ça va être dans le cadre de mon stage, mais je vous rassure, le stage a déjà été validé, donc en fait, je ne prends pas beaucoup de risques. Je vais lire un passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, et les versets 12 à 21. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Je vais juste prier. Seigneur, dans ce temps d'étude, dans ce temps de la lecture de ta parole, et dans l'exposé que je vais en faire, Seigneur, je te demande vraiment de me donner ton esprit et tes mots, mais je te demande aussi d'ouvrir nos cœurs, que nos cœurs soient sensibles à ton appel et à ce que tu as à nous dire. En ton nom, amen. Alors je bois, désolé. Mais ça, je prends exemple sur Alex. Alex m'a mis beaucoup de pression finalement, parce qu'il a des bonnes prédications, alors du coup, il ne faut pas le décevoir. Mais j'espère pas vous décevoir, vous non plus. Peut-être, juste un petit peu en introduction avant, je tiens à préciser que ce que je vais dire va plutôt piocher des chapitres 4 au chapitre 7, et le cœur est un petit peu sur les versets que j'ai lus. Mais vraiment, je vous encourage à aller voir pourquoi j'ai dit autant de bêtises sur si peu de versets. C'est parce qu'en fait, le passage est beaucoup plus long que ça. Donc ça, c'est un passage que j'aime beaucoup et je dois avouer que si je l'ai utilisé, c'est parce que déjà un de mes collègues à la fac s'en est servi pour une première prédication. Donc j'ai tout copié. Mais il n'en reste pas moins que c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur, pas cette semaine, ça fait déjà quelques temps, mais certains sont témoins du nombre de fois où j'ai pu changer d'avis et de sujet avant de me lancer. Mais commençons par ce qui me semble vraiment essentiel, et on l'a un peu vu déjà dans la première partie. C'est quelque chose de peut-être banal qu'on a l'habitude de dire et d'entendre. Ceci dit, reprenons juste un bout du verset 14, quand il est dit, déjà c'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. On pourrait un peu s'arrêter là-dessus quand même. Je ne sais pas si on réalise vraiment ce qu'on est en train de lire. Je ne sais pas si on en prend conscience tous les jours. Certainement pas. Probablement pas. Je vous regarde et je ne pense pas avoir des regards en disant « Non, moi j'y pense tous les jours, absolument 24 heures sur 24. » Christ, le Fils de Dieu, a décidé de venir mourir pour nous. Et rien de ce que je vais dire n'a de sens en dehors de ce point de départ. Et quelque part, on pourrait s'arrêter là aussi, on pourrait dire, c'est extraordinaire, le message est là-dedans, il n'y a plus rien à rajouter. Le Christ est mort pour nous afin que nous soyons sauvés. On pourrait continuer à chanter d'ailleurs. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Même si je ne suis pas très bon chanteur, on pourrait louer encore et encore et on pourrait s'arrêter là. Mais bizarrement, ça ne s'arrête pas là. Le point de départ, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous vous en souvenez? Il y a un mais. Et le mais, on le trouve dans le verset 15. Et s'il est mort pour nous tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ah, zut. Apparemment, il y a une mission. Vivre pour lui. C'est presque embêtant, en fait. Finalement, Christ, on a souvent cette phrase en disant, ben voilà, il est sur la croix, il est sur le point de mourir, tout est accompli. À la fin du soir, clap de fin, on range les affaires, tout est accompli. Ok, il ressuscite, c'est quand même important, il revient, il explique un peu à ses disciples ce qui s'est passé, pour qu'ils comprennent bien tout son ministère, comment il a vraiment sauvé l'humanité au travers de son sacrifice. Mais il n'est pas parti en disant, voilà, bah, j'ai tout fait, maintenant vous pouvez reprendre le courant de votre vie normale, moi je rentre, et puis bah, à la prochaine, je reviendrai, et en attendant, bah, bonne journée, bonne vie, de génération en génération, et puis voilà. Non, quand Christ est parti et qu'il a promis qu'il allait revenir, c'est pas vraiment ça qu'il a dit. Mais vous le savez, hein, c'est gênant. Il nous demande de faire quelque chose. Mais avant de voir quoi, j'aimerais juste m'arrêter pour essayer de réfléchir à pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu se sert de nous? Pourquoi est-ce que moi, je suis utile à vous parler cet après-midi alors que je ne suis pas grand-chose? Peut-être plus que certains, mais certainement beaucoup moins que beaucoup d'autres. Pourquoi se servir de nous? Parce que Dieu se révèle d'une manière assez extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Il y a une sorte de progression dans sa révélation. Juste après la chute, on a des mentions finalement de Dieu qui se présente, mais sous la forme d'une voix. Une voix qui parle directement à quelques personnes. Une voix certainement terrifiante. Puis après, on a cette histoire, et ben Dieu se révèle sous la forme d'un buisson. Un buisson ardent. C'est peut-être déjà un peu moins angoissant qu'une voix. Encore que, je suis pas certain. Après, on voit aussi dans l'Exode qu'il va se manifester pour diriger son peuple en forme d'une nuée, d'une colonne de feu. C'est extraordinaire, c'est immense, c'est toute la puissance de Dieu se dévoile là. Il va même jusqu'à accepter à ce que sa présence soit mise en boîte. L'Arche de l'Alliance, c'est une boîte. La présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est Dieu qui se met en boîte. C'est quand même fou parce que très souvent aujourd'hui on dit bah, faut sortir Dieu de nos boîtes, mais Dieu lui-même a accepté d'être dans une boîte. C'est bizarre, mais c'est déjà beaucoup moins paniquant qu'une colonne de feu. Enfin, moi personnellement, je préfère m'approcher d'une boîte que d'une colonne de feu. Après, il y a eu les prophètes aussi évidemment qui étaient un peu les messagers de Dieu. C'est déjà plus facile de parler à un prophète qu'à une boîte. Et il y a le temple. Le temple qui a symbolisé la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ce temple qui a été construit par Salomon, c'était vraiment, voilà, Dieu est là, Dieu au milieu de son peuple, et c'était la réponse à des promesses de Dieu. Et on allait là pour aller rencontrer Dieu. Puis bien sûr, après, on a eu l'incarnation. Dieu qui s'est fait homme. C'est presque encore moins prestigieux qu'une boîte. On peut faire une belle boîte et la mettre à un endroit, elle est magnifique, et elle bouge pas, et voilà, c'est rassurant. Mais se faire homme, Dieu qui se fait homme, voilà comment Dieu a continué à se mettre accessible à son peuple. Dieu s'est fait homme par Christ. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais je pense qu'on ne s'en rend jamais vraiment compte. Mais Dieu, d'un seul coup, était accessible. On pouvait parler à Dieu, mais directement. Je veux dire, ce n'était pas dans une prière où on attendait peut-être l'avis d'un rabbi ou je ne sais pas. Non, non, on pouvait discuter avec Dieu et on pouvait lui poser des questions, on pouvait manger avec lui. Certainement, des gens ont rigolé avec lui, ils ont passé du bon temps, ils ont bu du vin, ils ont mangé du pain aussi. Ils ont fait plein de choses avec lui, ils l'ont suivi, ils ont marché, ils ont discuté. Dieu était devenu comme l'un d'entre nous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce Dieu qui était déjà beaucoup moins terrifiant sous la forme de Christ, Dieu a décidé de continuer sa présence parmi les hommes au travers de son Église. Et oui, aujourd'hui, la présence de Dieu auprès des hommes, c'est l'Église. Cette Église, effectivement, elle n'est pas lointaine, elle n'est pas intimidante, elle n'est pas dangereuse, elle ne fait pas peur, quoi. Honnêtement, si vous réfléchissez à ce qu'est une Église aujourd'hui dans le monde, oui, ça peut être assez accessible par rapport à ce que pouvait être Dieu dans la révélation de l'Ancien Testament. Dieu continue sa révélation auprès des hommes au travers de l'Église. On peut lire dans 2 Corinthiens, toujours le même livre, au chapitre 6, mais je vais juste lire, c'est un petit bout de verset, au verset 16, deuxième partie. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors bien sûr, ça s'applique à Christ, mais ça s'applique aussi à l'Église. Nous marchons au milieu de toute l'humanité, de nos contemporains. Vous êtes des petits temples ambulants de la présence de Dieu parmi vos amis. Ok, donc c'est bon, maintenant on a compris, on est des petits temples. Mais à quoi on sert ? Ça, on comprend le pourquoi, il veut peut-être nous utiliser, mais à quoi servons-nous ? Vous a-t-on déjà posé la question, où est Dieu ? Ou que fait Dieu dans ces circonstances ? Ou pourquoi Dieu ne me répond pas ? Ou pourquoi Dieu est-il si lointain ? C'est une question difficile, parce que quand on comprend que finalement la révélation de la présence de Dieu auprès des hommes, c'est nous, on a du mal à répondre, je suis là. Ce serait un peu prétentieux quand même de dire, je suis la présence de Dieu auprès de toi. C'est un peu angoissant. Mais pourtant, c'est le cas. Rappelez-vous du verset qu'on a lu, le verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Et nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Donc du coup, si vous voulez savoir où est la présence de Dieu auprès de vos amis qui vont mal, ou auprès des gens autour de vous, regardez autour de vous, tout simplement, à droite, à gauche. La présence de Dieu est là. Elle est là, bien sûr, là, tous ensemble, à l'église. Mais c'est ça, la technique, le plan de Dieu, le plan A, sans plan B, le plan A de Dieu, pour révéler son amour, sa compassion envers les hommes. L'Église, comme vous le savez dans certains passages, est qualifiée comme le corps de Christ. Et le Christ, lui, siège auprès du Père. Ça fait un corps très très long. Puisque nous, Église, nous sommes encore sur terre. C'est le titre un peu de ma prédication là. Les pieds sur terre et la tête dans le ciel. L'Église, nous, sommes là, sur terre, aujourd'hui, maintenant. Et notre tête, le Christ, est au ciel. Donc c'est pour ça que je dis que ça faisait un peu grand en termes de distance. L'Église est donc le témoignage de Christ jusqu'à son retour. Rien de moins, rien de plus. Témoignage de Christ. Mais quel témoignage ? Qu'a fait le Christ ? Eh bien, reprenons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18-19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc le témoignage de l'œuvre du Christ en tant que réconciliateur entre Dieu et les hommes. J'aimerais vous lire un tout petit passage dans Matthieu, Juste peut-être pour éclairer un petit peu la réflexion là, c'est dans Matthieu 28, et vous connaissez, hein. C'est la fin avec la mission. Donc ça commence au verset 16, mais je vais commencer au verset 18, moi. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce ministère de réconciliation, c'est l'enseignement aussi de Christ. Et s'il y avait un mot qui devrait résumer les enseignements de Christ, ça serait lequel? Allez, je suis sûr qu'il y en a un qui va le trouver. Trouvez-moi un mot, en dehors de réconciliation, qui puisse résumer l'enseignement de Christ. Il y en a un? Il y en a un qui tente? Ah, la timidité est extraordinaire. Disciple? Non. Amour. Amour, bien sûr. Amour. Là, j'ai plein de gros mots qui me viennent en tête parce que je me dis, mais mince. Si c'est ça l'enseignement de Christ, et si c'est ça que je dois appliquer dans ma vie pour être le témoignage réel de ce qu'est Christ, j'ai du boulot à faire. Amour. À ce moment-là, je vais juste faire une petite pause parce que je tiens à préciser que ce que je veux vous dire, c'est à la fois suite à ce que j'ai pu voir de cette église et la direction qu'elle est en train de prendre, qui est encourageante et vraiment géniale à voir. Et deuxièmement, c'est vraiment pour être un encouragement. Mais parfois, les encouragements sont un peu durs à entendre. Mais je préfère mettre une petite pause entre parenthèses pour que vous compreniez bien vraiment l'idée dans laquelle je suis, qui n'est pas du tout de montrer du doigt ce qui ne va pas, mais plutôt de vous encourager à continuer la direction que vous avez prise. Se réconcilier avec le Père, par amour. C'est ce qu'on faisait quand on allait au temple dans l'Ancien Testament. Quand on faisait des sacrifices, c'était un moyen de rétablir la relation avec Dieu. C'est comme, permettez-moi la comparaison un peu naze, c'est comme quand on allait chercher une pizza dans une pizzeria, sauf que maintenant les pizzas sont livrées. Vous êtes des petits temples ambulants, comme vous pouvez vous faire livrer des pizzas, bah vous livrez la présence de Dieu auprès des gens qui en ont besoin. Je sais que la comparaison est un peu nulle et limitée, mais c'est pour vous faire comprendre que vous êtes accessible là où les gens ont besoin de Dieu. Vous êtes ambassadeur du royaume. Autrement dit, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous croyons, doit être le reflet du royaume de Christ. Et le message est clair dans la fin de 2 Corinthiens 5 que je vous ai lu. J'y retourne. Je suis allé trop loin. C'est les versets 20-21, tout simplement. Bon, si je retombe dessus, ce serait mieux. Voilà. C'est casse-pied quand on perd ses pages. C'est les versets 20-21. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Quel appel? Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et le verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de justice. Que disons-nous réellement du royaume? Est-ce que c'est là vraiment l'image que nous donnons du royaume au travers de nos vies? Et pourtant, dans la sagesse de Dieu qui nous paraît folie, pour témoigner de son royaume, le Seigneur a décidé de faire de nous ses collaborateurs. Collaborateurs de son œuvre. Chacun d'entre vous, moi compris, est ambassadeur de ce royaume. Avec cette mission de réconciliation. Il n'y a pas de salut sans mission. Alors peut-être que tu peux te poser la question, mais moi je ne me sens pas particulièrement témoin de l'amour de Dieu ni de sa justice, et je ne me sens pas forcément ambassadeur. Peut-être même qu'il y a des choses qui te bloquent. Pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce que tu aurais honte? Tu te trouves trop petit? Trop bête? Trop vieux? Trop jeune? Trop ignorant? Trop pécheur, Ou alors, tu as des doutes, des souffrances, des déceptions. Peut-être même que l'Église t'a déçu. Des craintes, des peurs. Peut-être que tu penses que tu es trop compliqué ou trop occupé. On a une quantité de raisons qui font de nous des mauvais témoins et qui nous semblent valides pour s'éloigner de cette mission. Et je vais vous dire, vous avez raison. Vous avez raison. Vous êtes certainement trop petit, trop bête, trop vieux, trop jeune, trop ignorant. Moi aussi. Mais d'ailleurs, aucun d'entre nous ne mérite donc le titre d'ambassadeur, et puis aucun d'entre nous ne mérite même le salut de Dieu. Aucun d'entre nous ne mérite d'être appelé héritier du royaume. Aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Et c'est exactement ça qui fait de vous d'excellents témoins. Vous êtes la preuve vivante de la grâce de Dieu. Vous êtes la preuve vivante de la grâce de Dieu dans vos vies. Parce que vous êtes toute cette liste de défauts et d'inquiétudes, et que Dieu vous a fait grâce malgré tout, vous êtes là la preuve vivante aux yeux des hommes de la grâce de Dieu. Et de fait, on n'a pas le choix. Au jour où vous avez accepté le Christ dans votre vie et que vous êtes donc sauvé par la foi, vous embrassez cette mission. Sinon, vous mentez. Nous appartenons effectivement à ce royaume qui est encore à venir. Mais en attendant, on est là. On est là, là, maintenant, tout de suite. Et cette mission, heureusement, comme on l'a vu dans Matthieu, on ne va pas la faire tout seul. C'est cette mission où chacun individuellement, on est équipé de son esprit. Encore une fois, c'est comme si on avait la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Les pieds sur terre pour être témoin auprès de nos contemporains, vous l'aurez compris. Si on reprend un petit peu les bouts de versets qu'on a, c'est vraiment, nous sommes témoins pour Christ, par Christ, en Christ, au nom du Christ. Si vous passez à côté de la figure centrale du Christ, je crois que j'ai vraiment mal prêché. Mais le Christ est la raison initiale et la raison tout le long de votre mission. La parole, la Bible et l'Esprit sont reconnus comme la révélation privilégiée de Dieu. Et je le crois fermement. Mais qui la proclame? Qui l'annonce? Désolé de vous le dire comme ça, mais une soirée débat au Ninkasi ne suffit pas. 30 personnes, ce n'est pas le champ de mission de l'Église. Quand même, c'est important de le faire et que c'est une excellente opportunité à saisir. Rendez-vous compte que cette Église, chaque jour, j'ai fait un petit calcul, touche entre 300 et 800 personnes. Environ 3000 personnes par semaine. Là où vous êtes des ambassadeurs. Combien de gens autour de vous ont accès à ce temple mobile pour rencontrer Dieu? Combien de gens autour de vous, vous voient? L'œuvre de l'Église, c'est la vôtre. Et dit autrement, mais je vous préviens, j'ai prévenu les responsables de l'Église avant de sortir cette phrase. L'œuvre de l'Église n'est pas l'œuvre des leaders de l'Église. C'est bon, il sourit, donc... L'œuvre de l'Église, c'est vos vies. Tous les jours. Dans votre amour et dans votre compassion. C'est ça l'œuvre de l'Église. Et de cette Église-là en particulier. Moi, quand je vous dis ce genre de choses, je me pose la question après très concrète. Et maintenant, je fais quoi? Parce que c'est bien beau, la théorie, mais la pratique n'est pas beaucoup plus évidente. D'abord, au niveau de l'Église, je tiens à insister là-dessus parce que je me dis que c'est peut-être un encouragement pour vous. Investissez-vous dans votre Église locale. Vous êtes là peut-être pour 6 mois, 1 an, 3 ans, qu'importe. Le temps présent est celui où votre implication compte. Et tout ce que vous apprendrez dans votre implication, votre investissement, servira pour une autre Église. et tout ce que vous aurez apporté à cette église servira pour l'avenir de l'église que vous quitterez. Ne placez pas le délai de votre présence dans cette église comme un argument pour ne pas vous y engager. On vit dans une société où tout est axé sur le court terme. Ça, vous le savez, bon, c'est pas une grande découverte. Et on vit dans une société où toute la vision à long terme, finalement, est sacrifiée pour le court terme. Mais je trouve ça bizarre que cette application ne se retrouve pas dans l'église en général. Et c'est pas vrai que dans cette église, c'est dans l'église en général. C'est fou comme on est capable, nous-mêmes, dans nos vies chrétiennes, d'être sur des visions à court terme tout le temps, ailleurs. Et quand il s'agit de l'église, on repousse. Vous avez, nous avons, une espérance à long terme. Une espérance acquise. Une espérance extraordinaire. Un héritage assuré au ciel. Mais c'est pas là où sont vos pieds. L'encouragement que je vous donne, c'est d'être un membre valide du corps de l'Église. Maintenant, d'un point de vue tout à fait personnel, dans la vie de tous les jours, ça c'est pour l'Église. Mais tous les jours, commencez à vivre en accord avec cette mission. Si votre mission est celle d'être le témoin de la présence de Dieu auprès des hommes, alors vivez-la. Peut-être que ça signifie de vivre une réconciliation vous-même, dans votre vie, soit avec Dieu, soit avec un frère ou une sœur, pour vous-même. Cette mission de réconciliation, est-ce que vous la vivez ? C'est quelque chose de difficile, oui. Mais cette réconciliation, elle est acquise parce que Christ l'a faite pour nous. C'est une raison suffisante pour y aller. C'est dur, oui, mais l'Esprit nous aide, il nous accompagne, il nous équipe pour être efficace. C'est une raison suffisante pour y aller. Et oui, c'est difficile, mais nos frères et sœurs sont là, dans cette église qui s'est engagée, et ils nous aident tous les jours dans cette mission. C'est une raison suffisante pour y aller. C'est pas une partie de plaisir. Je vais vous inviter à lire dans le chapitre 6, les versets 1 à 10, histoire de vous donner un avant-goût de ce que vous pouvez vivre. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes, à tout point de vue, comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes condamnés, pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. La suite est super intéressante et je vous engage à la lire, bien sûr. Mais accueillir la grâce de Dieu dans nos vies et la mission qui va avec, pour le faire très simple, si nous la vivions radicalement comme il le fallait, nous souffririons plus. Est-ce que ça doit nous refroidir à être des témoins? Est-ce que ça doit nous encourager à nous cacher? Est-ce que ça doit nous encourager à fermer les portes du temple? Je vais vous citer un extrait d'un livre que j'ai lu. Et comme je suis très mauvais au niveau des références, j'ai oublié l'auteur et le bouquin. Et en plus, c'était en anglais, donc c'est de mémoire traduit en français. Donc comme ça, si c'est une citation exacte, C'est faux. Mais je vous le dis quand même. C'est une journaliste athée qui disait ça. S'il y a quelque chose après la mort, et si justement c'est une question de vie éternelle, selon les chrétiens, et si, pour ne pas paraître bizarre ou socialement étrange, les chrétiens ne m'en parlent pas, alors je me demande à quel point ils me détestent, au point de vouloir ma mort. À chaque fois que vous n'embrassez pas le message radical de l'Évangile, à chaque fois que vous oubliez d'être le témoin et porteur de la mission qui vous a été donnée, vous fermez les portes du temple et vous laissez quelqu'un dans l'ignorance. Alors il faut se réveiller. Comme le disait le début du passage, c'est que l'amour du Christ nous presse. Dans le verset 16, ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Cela veut dire que nous voyons nos contemporains par les yeux du Christ. Et ce que le Christ a fait, c'était de mourir par amour pour eux. Et c'est fou, mais il ne nous demande pas moins. Il y a un défaut souvent qu'on a, c'est, et je l'ai pareil, hein, là-dessus je me mets dans le même paquet, il n'y a pas de problème. On se sait pécheur, et on sait que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Et du coup, bah, on arrête d'essayer d'être parfait. Parce que ce n'est pas par nos forces que nous deviendrons parfaits. Et c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer de l'être. C'est pas parce que ce n'est pas par nos forces que nous arriverons à être parfaits, qu'il ne faut pas mettre toutes nos forces pour lutter contre le péché dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête de mettre tous les efforts possibles pour vivre complètement la vie que le Seigneur nous a demandé de vivre. Cette vie-là est une vie aussi de combat, et cette victoire, elle peut être gagnée avec le Christ, mais il faut aller au combat. Il faut aller lutter contre cette ancienne nature. Notre espérance et notre force se situent dans le verset 17, là où c'est notre appui pour avancer dans ce combat. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je vous rappelle, et tout cela vient de Dieu. Mais cette vision de cette nouvelle nature, elle est en quelque sorte un travail en cours de réalisation. Ne vous lassez jamais de vivre la vie que le Christ vous demande de vivre. Et oui, c'est difficile. Mais il faut le faire quand même. Pour Dieu, la vie de l'Église et votre vie, qui est à la tête dans le ciel, connectée par l'Esprit, c'est une vie qui se vit debout. C'est une Église qui se met en danger pour l'amour de nos contemporains. On peut tomber à genoux devant la grâce de Dieu, et il faut. Mais il faut se lever, parce que Dieu nous a donné une mission. C'est une Église dont les membres n'ont pas peur de perdre leur travail, leur maison, leur situation, leur confort, leur assurance. Pas peur de perdre tout ça pour l'œuvre du Christ. Ça ne veut pas dire que tout le monde perdra tout ça. Dieu peut bénir pour son œuvre. À nous de tout mettre à son service, pour sa gloire, en acceptant la mission qu'il nous a confiée. Cette mission qui est impossible sans l'Esprit. Mais nous sommes une nouvelle création. Nous pouvons travailler dans ce sens. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps ma situation passe avant plutôt que son appel ? Depuis combien de temps ce sont mes plans plutôt que les siens ? N'ayons pas peur du prix à payer, car Christ a payé le prix le plus cher pour nous. N'ayez pas peur d'avancer, car il nous promet d'être là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur du découragement. Nos frères et sœurs sont là à nos côtés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Juste avant de finir, j'aimerais juste clarifier quelque chose aussi qui parfois vient nous titiller un peu. Cette envie de devenir des personnes extraordinaires, avec quelque chose de rayonnant, des gens superbes à voir. Ça se passe pas comme ça. La seule chose qui est extraordinaire et dont vous pouvez être lumineux, c'est le Christ lui-même. N'essayez pas d'être des gens extraordinaires. N'essayez pas d'être des gens cool, sympas. Essayez donc plutôt de vivre la vie que le Christ vous demande de vivre. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est exactement ce qu'il nous demande. Parce que c'est là que la gloire de Christ se révèle. Et encore une fois, je suis désolé si c'était un peu direct, mais ça va finir pire avec ma conclusion. Et je vous cite un auteur que j'aime beaucoup, pour terminer, Bonhoeffer. Si tu crois, fais le premier pas. Il conduit à Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, fais ce même pas. Il t'est commandé. On ne te pose pas la question de savoir si tu crois ou non. On te commande un acte d'obéissance à accomplir immédiatement. Je vais prier. Seigneur, tu nous demandes quelque chose d'à peu près impossible à faire. Mais cet impossible, toi, tu l'as déjà réalisé. Tu as payé le prix extraordinaire pour ma vie. Et je sais que cet amour qui t'a mené à la croix pour moi, c'est ce même amour que tu vis pour les gens autour de moi. Seigneur, je veux te demander pardon pour le nombre de fois où je n'ai pas été ce témoin efficace. Mais Seigneur, je veux te rendre gloire parce que je sais que tu viens m'aider dans ton amour et dans ta compassion avec ton esprit. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous accompagnes sur ce chemin difficile. Mais Seigneur, je te demande de m'éviter de m'asseoir, Seigneur. Que je puisse être debout pour ta mission, Seigneur. Parce que c'est une question de vie ou de mort et que tu me commandes. Seigneur, je te remercie parce que tu as tout accompli. Je ne comprendrai jamais la dimension de ton pardon, mais j'accepte de la recevoir, mais également de la transmettre. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, d'âge en âge. Amen.